En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Histoire d'en rire, je vous donne l'image. C'est un échalas immense avec une coupe involontairement afro. Vous avez l'image. Il s'appelle Reda Siddiqui, mesure pour de vrai 1m98, ne nous regarde pas de haut, mais pense qu'il vaut mieux faire l'humour que l'amour. À l'occasion de sa tournée en France, nouvelle tournée, avec son spectacle « L'ironie de l'histoire », En sol majeur se plaît à rediffuser l'entretien qu'il nous accordait lors de son passage au Théâtre du Marais à Paris avec 2 mètres et davantage de liberté. Une parole sans frontières entre la France et l'Algérie. Mais j'ai un doute tout à coup avec cet étudiant trentenaire ayant bifurqué par l'humour, car dans son one-man show, il pose de sacrées thématiques. La liberté, le bien et le mal, l'ego et la pizza. Et c'est le concept pizza qui m'a un peu échappé. Par contre, ce que j'ai bien retenu, et ça c'est un scoop pour qui ne connaît pas ce pays, c'est que l'Algérie a de l'humour bzzef. N'est-ce pas Reda Siddiqui ?
Waouh, bzzef.
Et pourtant l'image qu'on en a de cette Algérie, en tout cas jusque-là, c'est une image sévère. On dit que l'Algérien est susceptible.
L'être humain est susceptible. Moi je pense qu'il faut arrêter de donner un peu la suprématie aux Algériens sur pas mal de défauts de l'humanité.
Ouais, en même temps, c'est matière à humour, les défauts.
Hein. Oui, oui. Peut-être que juste, ouais, il est peut-être susceptible, mais peut-être il est assez modeste pour faire de l'autodérision dessus et de les assumer.
Vous en êtes la preuve. Bon, la baisse, Chouya ?
Oui, ça va, alhamdoulilah.
Normal.
Normal, oui, bien sûr.
Il faut
sûr.
Dire ce que ça veut dire normal en Algérie.
Normal ? Je vais le dire, c'est un peu vulgaire, mais ça veut dire mqaouda, alhamdoulilah.
Qu'on traduira ?
Ça veut dire que c'est la merde, mais Dieu merci quand même.
Voilà, c'est pour ça que c'est normal, mais il faut bien l'entendre tel qu'on l'emploie là-bas. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ouvrir cet en sol majeur ? Est-ce qu'on commence avec un bon vieux groupe mythique type les Beatles, ou bien avec un chanteur de raï reconverti en crooner ? J'ai nommé Houari Dauphin.
Dauphin, Houari Dauphin. Non, l'autre, elle est beaucoup plus intime. Je pense qu'il y a des trucs à dire dessus, alors que les Beatles, ça ne représente pas grand-chose pour moi. Ça représente juste des vieux vinyles de mon père posés dans un placard où j'ai retrouvé un jour, un après-midi où j'avais rien à faire. Et je crois que c'est le premier son que j'ai entendu de ma vie.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Let it be. que ce soit clair, je n'ai absolument pas l'esprit de contradiction. J'avais cru comprendre que vous souhaitiez Wari Dauphin, Reda Siddiqui, pas du tout.
Non, je pensais qu'on allait en parler plus tard, parce que c'est quelque chose, on va dire, de beaucoup plus intime en moi, Wari Dauphin. Donc je me suis dit peut-être que, voilà, le temps qu'on ait l'intimité ensemble, Yasmine, on en parle et on commence par Latif B, qui, voilà, qui est un titre.
Vous pensez qu'on a, on a le temps comme ça, vous?
Ouais.
Notre invité Reda Siddiqui, né dans ce pays sympathique qu'on appelle Algérie, Malhaba, et bienvenue dans ce coin de radio en sol majeur.
Imaginons un Big Bang numéro 2. Vous rencontrez un extraterrestre qui n'a jamais entendu parler de votre monde. Que lui dites-vous?
Je me suis déjà posé la question.
Ah ouais?
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense très souvent à ce voyage sur la Lune. Parce que je me dis que si on va tous sur la Lune et on croise des extraterrestres, on va pas se la péter et de dire « Ouais, je suis algérien, là, je viens de Paris, il n'y a plus rien en fait, l'extraterrestre, il connaît rien. »
On sera des lunatiques.
Ouais, en fait.
Ou des lunaires.
Ouais, si je croise un extraterrestre, je lui poserai des questions sur le monde dans lequel il vit pour savoir s'ils ont un peu les mêmes problématiques que nous. Je pense que je serais rassuré de savoir qu'il y a par exemple, des procès d'intention chez les extraterrestres, ça me rassurerait, je me dis « On n'est pas les seuls, quoi. »
C'est ça, c'est comme ça que vous présenteriez votre monde à vous, Reda Siddiqui.
Moi je suis très cynique, hein, j'ai l'air très joyeux et tout, mais ouais, je suis assez lucide par rapport à ce qu'on est, quoi. Je veux dire, on est.
Est-ce qu'on peut parler de votre monde premier qui est l'Algérie, qui peut paraître, je vais mettre tout en italique, un pays bizarre, comme un ancien monde en fait, qui aurait accouché d'un nouveau monde. Vous en êtes sans doute l'un des représentants. Mais il n'y a pas de lien, on dirait, entre cet ancien monde et ce nouveau monde qui est en train de se lever en Algérie. Vous n'avez pas cette sensation?
Non. Il y a une très jolie phrase de le journaliste YB, Yassir Ben Miloud. Je ne sais plus où est-ce qu'il a dit ça. Il a dit « L'Algérie n'est pas en train de changer, elle est seulement en train de prendre son vrai visage ».
On va vous raconter un petit peu. Reda, vous êtes né en 91 à Tlemcen. Est-ce que Tlemcen, c'est très très différent d'Alger?
Ouais. C'est une petite ville, peut-être il doit y avoir quoi, 1 million d'habitants, mais une ville très conservatrice, très culturelle, c'est la musique andalouse, c'est la ville de Mohamed Tib, il y a une grande place à la littérature, c'est très... Tlemcen, c'est un peu Versailles, tu sais.
Ah oui?
Ouais, c'est très
C'est la Tchitchi, comment on dit?
Non, pas la Tchitchi.
Alors qu'est-ce que la Tchitchi?
Plein de gens définiront la Tchitchi à leur manière, en plus le terme change à travers le temps. Mais maintenant, la Tchitchi, c'est moi, quoi. Moi, j'en fais partie.
On est quoi? C'est débranché?
Non, les bobos algériens, quoi. On est les... tu vois? Genre, c'est un luxe. Je veux dire, maintenant, il y a des Algériens qui pensent à l'écologie, quoi. Donc, il faut être rassasié pour avoir envie de changer le monde.
On aime bien raconter le chaudron familial de nos invités. Alors, justement, il ressemblait à quoi, votre chaudron, à vous?
Il y avait du monde. Il y avait ouais. Du monde et...
Mais c'est un état pour vous, la famille, non?
Non. Non, c'est pas un état. Pour moi, la famille, ça a été beaucoup plus un terrain de jeu. Ouais, ça a toujours été un terrain de jeu. Pour moi, les réunions familiales, c'était comme si on partait à Disneyland, quoi. Dans la famille, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'après le repas, au moment du dessert, il y a quelqu'un, donc au milieu de 40 personnes qui racontent une blague, et il fait rire. Et puis, il y a un deuxième qui raconte une blague, il fait rire. Et à un moment, la sauce, elle est en train de monter, et à un moment, donc, t'as envie de prendre la parole. Et si t'es pas drôle? C'est chaud.
Donc il y a un concours de blagues en
famille. Il y a un concours de blagues ou d'attention un peu. Et si t'es pas drôle, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile, enfin pour moi en tout cas, de jouer devant ma famille que devant un public. Parce que ta famille, elle n'oublie pas le jour où t'as pas été drôle. Le public, il l'oublie.
Pourtant, vos parents sont pas artistes.
Non, ils sont pas artistes, mais...
Ils font quoi?
Mon père est prof à l'université et ma mère est architecte. Mais je sais qu'ils ont toujours...
Quoi qu'il faut de l'humour pour faire de l'architecture en Algérie, non?
Ouais, il faut de l'humour, mais je pense que mes parents, c'est ce que j'ai ressenti, ils ont toujours eu cette frustration parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leur côté artistique. Moi, je sais que j'ai fait le conservatoire à Tlemcen pendant 6 ans, on a fait du piano avec ma petite sœur, et je crois que, pas seulement parce que moi je voulais, mais c'était aussi l'expression d'une certaine frustration de mes parents, où ils n'ont pas eu l'occasion, je ne sais pas moi, de faire de la musique, du théâtre.
Ce chaudron familial, autant arabophone que francophone?
Ouais.
Que berbérophone même?
Berbérophone, ouais, un petit peu, peut-être, ouais. J'ai une grand-mère qui suit un peu des montagnes berbères à côté de la frontière marocaine.
Celle qui est un peu ministre ?
Les deux, les deux.
Parce moi, que vous les appelez ministres de l'intérieur ?
Ouais, mes deux grand-mères, c'est des ministres de l'intérieur. Même moi, celle qui est encore vivante, je lui dis souvent, heureusement que tu sais pas lire et écrire, sinon ce serait une grande dictatrice, quoi. Ah oui, vraiment, heureusement. Elle a une aura, elle a une présence quand elle parle, alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Et du coup, c'était quoi la question déjà ?
Arabophone ?
Oui, arabophone, francophone, berbérophone, dialectophone, regarophone, silencophone. Il y avait
jamais aphone.
Côté... Non. Enfin, un petit peu, si, ça peut arriver, mais c'est calculé, et on comprend.
Mais ça s'appelle l'autocensure, ça,
non ? Non, il n'y a jamais eu d'autocensure dans le chaudron familial. Enfin, je veux dire, même...
Pas de tabou ?
Non, pas de tabou. Je peux vous raconter ça à la radio. Mais récemment, mes grands-parents, voilà, 81 et 83 ans, ils se sont embrouillés. Et j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai insisté pourquoi elle s'est embrouillée avec mon grand-père. Et elle m'a clairement dit parce que mon grand-père ne bande plus. Et malgré le fait, elle m'a dit qu'il prend la pilule bleue, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Elle a dit juste la pilule bleue là que j'ai trouvée dans son tiroir. Et même ça ne marche plus. Et du coup, je lui dis, c'est bon, arrête-toi. J'ai compris. Elle m'a dit, non, tu voulais savoir, je te raconte jusqu'au bout. Elle m'a dit, donc avant, quand j'étais une petite minette, j'étais toute fraîche, j'étais une femme, ils me respectaient. Et maintenant que voilà, il n'y a plus rien, maintenant, ils ne me respectent plus. Et du coup, donc, je trouvais que c'est intéressant parce qu'il y a eu comme un élan féministe un peu, mais naturel. Et du coup, non, pas de tabou. Voilà. Désolé maman, j'ai raconté ça, mais il fallait expliquer à Yasmine que pas de tabou. Voilà, qu'est-ce que je
dis ? Vous savez quoi, Reda Sediki, on aurait presque envie d'être tous adoptés par votre famille.
Avec
donc,
plaisir.
Vous êtes né en 91 dans cette Algérie qui tape dans le ballon, qui saigne déjà et qui chante toujours.
C'est toujours les mêmes parties qui font la guerre à l'île Kounsi, je m'en pourrais lire ou les racer. Inis ma petite bourgeoisie, Mercedes la tête encrassée, ou elle a les bus cassés. Une jour télévision, crée la grève des enseignants, on les traite de feignants. J'm'en fous pour le fondamental, j'ai un gosto pour le football, gal Algérie malade mentale.
Il vivait parmi nous, personne ne peut vous dire le contraire. Dès la tombée de la nuit, l'armée partait et eux, ils arrivaient avec leur tenue afghane. Et ils se baladaient dans le village. Mais l'armée ne leur a rien fait. Nous, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de prévenir l'armée. Mais elle ne faisait rien.
رياض محرز يستعيد تنفيذ هذه المخالفة حطها في الجول يا رياض 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 حطها في الجول حطها في الجول يا رياض حطها في الجول.
Alors on est dans votre Algérie ou pas du tout, Reda Sediki, pour un sol majeur ?
Pas du tout. Vous êtes très loin de mon Algérie. Hein. Ouais.
C'est pas l'Algérie, votre Algérie des années 90, tout ça ? Alors, du Renault version Baziz, avec Je m'en fous, un commentateur de foot exceptionnelissime qui est au Qatar aujourd'hui,
okay, ouais.
Je crois.
Ouais.
Et puis, un témoignage d'une habitante de Bentala après le massacre de la ville par le GIA en 97, sans intervention de l'armée. Ça campe pas vos premières années en Algérie ?
Non, ça campe un peu, j'ose le dire, hein, entre guillemets, peut-être le fantasme occidental de mon enfance en Algérie. Mais mon enfance en Algérie, c'était pas ça.
C'était
mes parents, ils m'ont protégé de tout ça. Mes parents, ils m'ont jamais dit qu'il y avait des gens qui se faisaient égorger. Moi, c'est bien plus tard que j'ai découvert tout ça. Mes parents ont toujours fait pour que... en sorte pour que j'ai une enfance tout à fait normale. La première chanson, c'est une cassette que j'ai trouvée à la maison, qui raconte ce qui se passait à l'époque, que je connaissais par cœur, cette chanson.
Baziz, hein, je m'en fous,
ouais.
Reprend Renaud, donc.
Ouais, et en fait, qu'il utilise des mots que je ne comprenais pas quand j'étais petit. Quand il dit « Debzo il labo, mazal fil bagaray halbo », moi, je ne sais pas. Il parle de deux gamins qui s'embrouillent et qui sont en train de traire une vache. Moi, dans ma tête, il raconte l'histoire de deux gamins qui habitent à la campagne, dont le père est fermier. Bien plus tard que j'ai compris que la vache, c'était le trésor public. Le massacre, ouais, j'ai pas connu ça. C'était à côté. C'était peut-être des amis de mes parents, c'était des gens. Mais moi, je continue à aller à l'école tous les matins. Et Hafed Draje, oui.
Commentateur de foot.
Le commentateur de foot, d'ailleurs, je l'ai au téléphone il y a deux jours. Commentateur de foot, ouais. Parce que j'aime le sport et c'est vrai que oui, c'est. À un moment de ma vie, je voulais être commentateur sportif parce que j'aimais bien cette idée de commenter un truc que les gens voient, je sais pas. En fait, je trouve que quand on a l'image, on n'a pas besoin forcément du commentaire parce que ça crée une certaine redondance, mais dans le foot, ça fait quelque chose, je sais pas. Mais je pourrais vous raconter mon Algérie.
Alors la vraie.
Ouais.
Si vous la résumez, c'est comment?
Moi, ma vraie Algérie, c'était la rue. La rue. J'ai passé énormément de temps dehors et limite à l'insu peut-être de mes parents.
C'est drôle parce qu'on a l'impression que vous avez passé beaucoup de temps dans les livres.
Aussi, oui, mais on peut lire dehors.
On peut lire dehors, c'est vrai.
Ouais, ouais,
belle phrase.
On peut lire dehors. Ouais. Et quand on dit, on a l'impression que l'Algérie, c'est un pays bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est vraiment une nature comme partout. Mais vraiment, même la France est un pays bizarre. Le Pérou. J'ai découvert récemment que le Péruvien, mais vraiment, en termes de fierté, il dépasse les Algériens, mais de loin. Mais c'est juste qu'en France, le Pérou, ça nous intéresse pas trop. Mmh. Et du coup, on n'en parle pas, c'est tout.
On revient à vos années 90. Donc en 99, si mes calculs sont bons, je pars sous le contrôle d'un ex-étudiant en mathématiques, hein, c'est ça. Mmh. Vous avez 8 ans, et c'est le temps de l'élection de Bouteflika. Alors lui, il vous intéresse, hein. À ce moment-là, ça se passe, il est à la succession du président Zerouel et sa candidature provoque une crise politique à ce moment-là et le retrait de 7 candidats.
Ouais.
Quelques heures avant la clôture du scrutin, il accorde une interview à France 2 avec un regard qui ne passera pas à la radio malheureusement et une rhétorique surréaliste. Oui.
Si...
Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez faire la phrase?
Ouais.
De Bouteflika.
Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je peux considérer qu'il vit heureux dans sa médiocrité. Mais je ne suis pas responsable de faire son bonheur, après tout.
On écoute la VO.
Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je sais rentrer chez moi et y rester pendant 20 ans, je l'ai déjà prouvé pendant le passé. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir. Pas plus que quelqu'un qui est atteint de messianisme politique.
Petit président, il écrit des lettres sans même savoir ni de stylo ni de pouvoir. Je vous dirai peut-être qu'il n'était pas seul, qu'il a été peut-être aidé par des... Ghostwriters, Ghost President.
Ah, je me dis que Bouteflika doit se retourner dans son AVC. Qu'en dites-vous, Reda Siddiqui? Vous qui souhaitiez entendre son incroyable rhétorique que vous imitez à la perfection d'ailleurs.
Je suis fasciné par ça, moi. Moi, je suis fasciné par ça. Je trouve que c'est incroyable. La manière... Vous savez, j'ai regardé énormément de discours de Bouteflika et la manière avec laquelle il tient la foule. C'est un artiste. Il aurait pu être notre Philippe Cobert. Mais il a été notre Staline. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dommage, mais non, pas c'est dommage. Non, il ne faut pas dire ça parce que... Il y a une beauté quand même dans la dictature, dans la manière de tenir une foule, la manière de parler, la confiance qu'il a en soi pour dire les choses. Et vous ne trouvez pas ça, vous, magnifique, comment l'être humain peut manipuler un autre? Mais là, il n'a pas manipulé qu'un seul. Il a manipulé déjà tout un pays et le monde à un moment. Faut dire, il est quand même arrivé, il a ramené Yasser Arafat à l'ONU. Enfin, c'est ça qui est incroyable.
Bon, alors il y a des dictateurs quand même qui brisent des destins par milliers. Vous, un dictateur, ça vous fait prioritairement, ça vous fait rire?
Non.
Ça vous fascine en tout cas?
Un dictateur, ça me fascine parce que ça nous apprend beaucoup sur l'humanité. C'est ça en fait. Il a des états d'âme, je pense, c'est un être humain comme nous. Il y a des choses qui se cachent derrière. Je pense que Bouteflika, quand il dormait la nuit à l'époque, il se dit quand même, je suis en train, je me permets le mot, d'enculer 30 millions d'Algériens. Mais il continuait. Il était malade. 2012, AVC, il était encore là. Il sort sur son fauteuil roulant de la mosquée Kchawala. Et là, il lève la main. Je ne sais pas, moi, si les psychanalystes... C'est du gâteau. C'est du gâteau.
Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'Algérie, c'est un théâtre à ciel ouvert. On peut dire des choses plus méchantes que ça. Hein. Ça peut être aussi un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. On va garder l'idée du théâtre puisqu'on
c'est
vous reçoit. Reda Siddiqui,
ouais,
voilà.
Il y a des gens qui me disent pourquoi il n'y a pas de théâtre en Algérie. Je dis parce qu'il n'y a pas besoin, il est dans la rue.
Voilà.
Tout simplement. Il est réel.
Et je le confirme d'ailleurs. Mmh. En tant que femme de radio, c'est vrai que quand on fait un micro-trottoir en Algérie, c'est pas la même chose que de le faire à Genève.
C'est magnifique. Ouais.
Donc, dans cette Algérie. Et dans cette dictature, en même temps, ce goût du one-man show pour vous, ce goût du rire, il est né comment?
Déjà, comme je racontais par rapport à la famille, Et après, j'ai complètement, enfin, je veux dire, oublié ça, parce que quand je suis arrivé en France, j'avais pas trop le temps. J'ai fait de la cryptographie, donc en gros, tout ce qui est sécurité des données confidentielles.
Vous avez commencé par le moins drôle. Hein.
Ah si, je vais vous raconter l'anecdote pourquoi j'ai décidé de faire ça, parce qu'en fait, le premier cours de cryptographie que j'ai eu, c'était tout ce qui est cryptage de messages, de mots de passe. On apprend beaucoup d'algorithmes, beaucoup de méthodes hyper sophistiquées pour crypter des données et pour pirater, par exemple, des cartes. Mm-hmm. Et à la fin, le professeur, il nous dit, il faut pas oublier le meilleur moyen pour récupérer le code PIN d'une carte bancaire, c'est de demander à la personne. Et c'est là où je me suis dit, je vais faire ça.
Vous avez votre chance, quoi. Mais c'est dans l'humour.
Ouais. Ouais, mais c'est très drôle aussi. Et c'est comme ça que Bouteflika, avec le regard, il arrive à voir les codes PIN.
Ouais.
C'est ça qui.
Bon, je sais pas comment vous en êtes venu à l'humour. Mais
ah oui, comment je suis venu, ça a été un besoin. L'écriture et monter sur scène, ça a été un besoin avant tout. Parce que, en gros, je suis en France, je finis mes études, j'arrive pas à renouveler mon titre de séjour. Et je comprends pas, je suis dans un pays qui m'enseigne gratuitement, qui me forme, mais qui veut pas profiter de ma formation. J'ai fait des études avec
la France,
vos...
c'est drôle aussi.
Ouais, c'est bizarre. J'ai fait des études avec vos impôts. Vous pouvez en profiter un minimum. J'ai commencé à écrire là. Et je me suis dit, et là, ça mérite d'être dit, quoi. Il faut monter sur scène et dire aux gens, oh, attention.
Alors, on va tirer le rideau rouge de 2 mètres et davantage de liberté. Spectacle Reda Sediki qui s'ouvre avec cette musique.
G
G comme genre humain.
Alors d'abord, pourquoi ce début de chanson du célèbre Abdel Halim Hafez, qui est une immense voix égyptienne?
Parce qu'il dit Ahwak, Watmanna Law Ansak, il dit voilà, je t'aime et je souhaite t'oublier.
Vous racontez une peine d'amour avec la France?
Non, ça c'est une chanson qui correspond à mon état d'esprit en fait, à ce que je suis. Et du coup, donc je l'ai mise comme ça, comme début. Peut-être les gens ne le savent pas forcément, mais moi ça me fait du bien de rentrer sur scène.
Ça vous permet de rentrer dans le spectacle?
Ouais, exactement.
Avec donc une chaise, une théière et une bouteille de vin. J'ai un peu l'impression, quand je vous regarde sur scène, que c'est un spectacle donc sur le genre humain. Comment vous l'avez construit, ce spectacle, par rapport à votre premier seul en scène que vous aviez intitulé « Lettre à France » ?
Le premier spectacle, « Lettre à France », donc en gros, là où je racontais un peu ma relation avec ce pays, qui est la France. Donc je suis algérien, je viens dans un pays qui s'appelle la France, ils ont un passé commun. Donc je suis allé là où on m'attendait. Et puis pour ce deuxième
spectacle... C'est où ça ?
Là où on m'attendait, je dirais que c'est mon ego. Pour moi, c'est l'ego là où on nous attend. C'est un peu la part de nous qui donne de l'importance au regard de l'autre. Et puis je me suis dit, faut voir l'autre en fait. Il faut voir la partie de moi qui s'en fout de comment on la regarde. Et du coup, donc, je suis allé là où on ne m'attendait pas. Je vous raconte ça, je crois que je ne l'ai jamais dit, mais pour un besoin d'écriture, j'ai commencé à me détacher de toutes les convictions qui me faisaient. Du 3 avril 1991 jusqu'à je sais plus quelle date.
Par exemple ?
Tout en fait. Ce nationalisme primaire que j'avais en moi, la religion, des notions de bien et de mal par rapport aux dictateurs et tout. J'ai essayé de me détacher de tout. Donc en gros, moi je me disais Bouteflika c'est mal, mais à un moment je me suis dit mais pourquoi il est mal ? Pourquoi il fait ça ? Je me suis tellement détaché de tout ça. Et du coup, le spectacle, il s'est construit comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de notions de peur et d'amour, la notion de, comme vous avez dit, peut-être de bien ou de mal. Le fait d'être tellement au milieu que d'être ni d'un côté ni d'un autre.
Donc c'est une mue qui s'est opérée en vous, presque.
Ah oui, c'est la mort d'un Reda et la naissance d'un autre.
Un Reda nu.
Nu, ouais, nu. Mais vraiment nu. Et après, ouais, petit à petit, j'ai commencé à accepter des choses et j'ai commencé à... Je sais pas pourquoi je vous raconte ça.
Mais c'est pas mal de le raconter parce qu'effectivement, ouais. Ça dit que c'est un spectacle qui joue vraiment sur le sensible. Il n'y a pas du tout, c'est pas la peine de venir pour attendre des punchlines, des vannes en dessous de la ceinture, etc. Ça vole haut, si j'ose dire. Il y a des références.
Bah, quand on est nu...
ça dépend. Hein.
Il faut.
Y a de tout pour faire un monde. Mais il y a Bourdieu qui s'invite sur la scène, qui est quand même l'un des sociologues les plus perchés qu'on puisse connaître. C'est pas le plus facile à lire, non plus. Il y a effectivement de grandes interrogations presque philosophiques, métaphysiques, qui vous traversent, l'amour, le mal, le capitalisme, l'identité, l'ego, on l'a vu. Et puis il y a la pizza. C'est quoi la métaphore de la pizza, Reda Siddiqui ?
En fait, c'est un questionnement sur la liberté. Je dis, le gouvernement nous dit qu'il est garant de notre liberté à condition que nous respections la loi. Ça veut dire qu'il nous dit que quelque part, c'est donnant-donnant. Donc c'est comme s'il nous disait une pizza achetée égale une pizza offerte, quoi. Et du coup, donc, si on prend cette équation, une pizza achetée égale une pizza offerte, ça nous fait qu'une pizza achetée moins une pizza offerte, c'est égal à zéro.
Vous suivez, hein?
Oui, oui, si on met pizza en facteur, ça fait que pizza fois achetée moins offerte, c'est égal à zéro.
Ex-étudiant en maths, hein, donc.
Bien sûr, bien sûr. Et on sait très bien que pizza, c'est une constante qui est égale à pi fois 2 fois a. Donc elle est forcément différente de zéro, ce qui nous implique que acheter égale offerte, et ce qui fait que le gouvernement, en fait, nous doit une pizza.
Vous postulez pour le ministère de l'économie, j'imagine ?
Non, pas du tout.
En tout cas, la bouffe tient une place énorme, hein,
oui.
J'ai remarqué dans votre spectacle. Parce que selon vous, on peut expliquer le monde sans racisme à travers la bouffe.
Évidemment. Comment dire, c'est beaucoup plus facile de respecter des goûts que des opinions. Les goûts, on peut comprendre, on dit oui, tous les goûts sont dans la nature, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, c'est super.
Ça, c'est le parisien.
Non, non, non.
C'est ça, français.
C'est... Non, non, c'est pas français. Ça, c'est les gens qui ont le luxe de penser à faire de l'humanitaire. Voilà. Donc, ouais. La chichi, les bobos, appelez ça comme vous voulez. Parce que des fois, on a envie de dire les choses, mais il y a tellement de lois maintenant, il y a tellement d'associations. Ils disent, tu peux pas dire comme ça, j'aime pas les arabes, ça passe pas. Mais tu peux dire, j'aime pas le couscous. Voilà, ça passe mieux. Moi, la soumoule, ça passe pas trop. Tu peux même aller plus loin. Tu peux dire, un couscous, ça va. Quand il y en a beaucoup, ça pose problème.
Alors, vous expliquez qu'en fait, vous êtes un peu en quête de pétrole humain. J'aime beaucoup cette expression et on va pas la déflorer. On est d'accord ?
Ouais.
On va laisser un petit mystère planer comme ça. Le tout explicité par des formules scientifiques. Il y a un petit côté savant fou chez vous, Reda Siddiqui. Sur scène, en tout cas.
Oui.
Vous avez votre nez de clown là tout à coup.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Mais mon nez, même pas besoin du nez rouge, il est déjà gros.
Absolument.
Ouais. Parce que j'adore la science, j'ai baigné dans ça. Et ça fait partie de moi, les mathématiques. Moi, si j'ai fait des études de maths, c'est parce que ça m'amusait.
Et puis parce qu'il y a de la poésie et de l'humour dans les mathématiques, c'est connu.
L'humour est mathématique et logique. Même des fois, je m'amuse à essayer de modéliser. Le rire avec une équation mathématique.
Trois petits points.
Oui,
et
oui.
Puis à un moment donné, vous vous rapprochez de la fameuse bouteille de vin et là, il y a The Voice qui déboule.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
On a picolé pour la première fois avec mon père. On a brisé un tabou de 14 siècles. Quoi. C'était pas prévu. Je sais pas comment c'est arrivé. Mais avec mon père, voilà, c'était le plus beau verre de ma vie. Vraiment, c'est retrouvé dans un bar, une bouteille de pinard et paf! Avant, je buvais avec culpabilité, maintenant je bois avec mon père. Alors, on n'avait pas besoin de se cacher. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'était beau. Tu vois, même s'il y a quelqu'un qui passe, qui me regarde, mais alors, tu es en train de picoler, ferme ta gueule, je suis avec mon père, qu'est-ce qu'il y a ? Mais vraiment, dans ma tête, je picolais avec Dieu. Mais vraiment, Dieu, il est descendu de là-haut, il m'a dit, allez, chine, à la tienne, frérot. Tu sais quoi, je vais te dire un petit secret, tu vas au paradis, tu le dis à personne, mais ça reste entre nous. Et mais vraiment, c'était beau. Même si en sortant du bar, quand même, mon père, il m'a regardé, il m'a dit, hey, viens, tu dis pas à ta mère.
Ça, c'est un grand moment de spectacle qui a l'air très léger comme ça, mais non, c'est un moment, je dirais.
Bien sûr que c'est un...
C'est un moment dans votre vie et c'est un moment que je relirai à ce 22 février qu'est en train de vivre l'Algérie.
Waouh !
14 siècles de tabou réglés en un verre de vin avec son père. Est-ce que ça pouvait avoir lieu avant le 22 février ?
Mais avec mon père, on a picolé chez lui il y a 2-3 ans. Hein. C'est pas après le 22. Hein.
Ah, d'accord.
Non, c'est pas lié au 22 février. Pourquoi ? comme je vous ai dit, dans la famille, il n'y avait pas de tabou. Pour dire les choses, il fallait des métaphores, il fallait des tournures de phrases, il fallait du vocabulaire. Pour, voilà, il fallait de la vaseline, voilà, tout simplement.
Oui, bah oui. Votre grand-mère, elle y va direct, hein, elle n'y va pas par la métaphore.
Oui, mais parce que 81 ans, là, maintenant, c'est bon, plus de valeur morale, allez, c'est bon, elle est passée à autre chose. C'est bon, elle a déjà fait, elle a métaphoré dans sa vie, c'est bon, maintenant, elle laisse la place aux petits jeunes.
En tout cas, grand moment dans votre spectacle, je vais reprendre la main quand même, oui, parce que dis-moi. Sur la question qui fâche, celle de l'identité, où je trouve tout est dit. À travers justement ce mariage entre une théière et une bouteille de vin, il y a un vrai mariage, hein, sur scène. Et un mariage aussi entre votre circoncision et un verre de Corneille. Une manière de revendiquer quoi en faisant ce genre de mariage ?
J'y ai pas pensé avant, mais là, la première idée qui m'est venue en tête, une manière de revendiquer que la langue française n'appartient à personne et appartient seulement aux gens qui la pratiquent. Et qu'il aime aussi. Je crois revendiquer la langue, la littérature. La langue n'appartient pas à un territoire, elle n'est pas dans des frontières, elle n'est pas dans des... Vous savez, il n'y a pas longtemps, on m'a invité à une sorte de colloque sur la francophonie. Les Français parlaient encore une fois de comment la francophonie en Afrique, nanani et tout. Et moi, j'ai dit, voilà, pourquoi ne pas faire un colloque de la francophonie à Bamako, hein, vu qu'il y a beaucoup plus de francophones en Afrique qu'en Europe. Donc ouais, peut-être c'est de revendiquer ça. Voilà, on peut être circoncis, naître des milliers de kilomètres de Paris à des milliers de kilomètres de l'Institut français en face du Pont des Arts. Et on peut adorer la langue française et faire en sorte que ça soit la nôtre, quoi.
Une manière de revendiquer aussi une forme d'hybridité ?
Pas forcément, non. C'est juste, non, vraiment, c'est juste la langue. Mais la langue française reste pour moi la langue avec laquelle j'exprime le mieux mes idées. Et je suis très content. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une langue avec laquelle il exprime le mieux ses idées. Hein.
À quoi vous ressemblez sur scène, Reda Seddiki, est-ce que vous le savez ?
J'ai jamais vu mon spectacle.
Alors je vais vous le dire, un échalas immense, avec une coupe, je l'ai dit, involontairement afro. Ça a poussé, hein, en quelques années. On est plus, je trouve, visuellement du côté de Jacques Tati que des plagiaires du stand-up.
Je me rappellerai toujours de ce jour où j'ai amené mon fiston pour faire du poney au jardin d'acclimatation. Tout le monde connaît le jardin d'acclimatation. On arrive au jardin d'acclimatation, puis la dame dit « Ben oui, vous voulez faire du poney ? Très très bien, allez, c'est parti. Vous voulez monter sur vodka, pim-poum, tic-tic, cac-cac, pou-pouc, tic. » Je l'ai amené au Maroc, puis il y avait un gars qui louait des poneys. Mais la tête des poneys, mes amis, on dirait un autre animal, quoi. Mon fils m'a dit, comment il s'appelle, papa ? J'ai demandé au monsieur des poneys, comment il s'appelle ? Il m'a dit, comment il s'appelle quoi ? Je dis, ben, comment il s'appelle ? Il m'a dit, ça s'appelle le poney.
Il avait fait la guerre 39-45. Pas du côté de la Wehrmacht, hein, du côté français. C'est-à-dire que mon père était un colonisé, il s'était battu aux côtés de son colonisateur pour l'aider à se décoloniser.
On n'a pas vécu dans la misère, mais des fois c'était chaud, mais comme tout le monde. Je te jure, à la maison on n'avait pas de jouets. Avec mon petit frère Karim, on s'amusait avec des lampes. C'était une idée de mon père. Il nous avait fait croire que les lampes, c'était des Power Rangers. Il avait réussi à faire croire à ma petite sœur Nawel que la table basse, c'était une Barbie.
Et ouais, on était bien. Et puis voilà qu'arrive Gad Fellag et Debbouze dans l'ensemble majeur de Reda Seddiki avec cette question. Est-ce qu'ils pourraient être des références pour vous ?
Non.
Bah, vous en faites une tête. Hein.
Je vous ai dit, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me détacher à pas mal de choses, donc ça a été un modèle de pensée. On avait toujours un modèle de pensée. Il faut avoir un référent, il faut avoir des inspirations. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit non, pourquoi ne pas essayer d'exister juste soi ? Et du coup, non, c'est pas du tout des référents, mais après, je
peux... Mais après, en général, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fan des humoristes ?
Ah ouais, en fait, j'aime pas l'humour. Après, je dis aujourd'hui, avec des pincettes, parce que je sais pas quel était l'état d'esprit de l'humour, par exemple, il y a encore 30 ans, j'étais pas là, mais je trouve qu'on vit dans une époque où l'humour sert à dénoncer et pas à démasquer. Pour moi, le rire, c'est quelque chose...
C'est quoi la différence ?
Vous savez pas ce que c'est la différence entre dénoncer et démasquer ?
Non, je sais rien, moi, vous savez.
Yasmine, comment on va faire ? Dénoncer, c'est quoi ? Dénoncer, c'est on va dénoncer quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Alors que démasquer, c'est juste faire tomber les masques que la société nous impose. Et de se retrouver tous égaux devant l'humour. Moi, j'ai envie demain, si je joue devant Macron ou un gilet jaune, j'ai envie de les faire rire exactement de la même manière. Mmh. Mais je n'ai pas envie de faire rire Macron sur un gilet jaune ou faire rire un gilet jaune sur Macron.
Donc vous êtes un émancipateur.
Je ne sais pas, appelle ça comme tu veux, mais je trouve que l'humour aujourd'hui, il est dans la délation, il n'est pas forcément pour démasquer. Je crois que c'est Bergson qui disait que le rire, c'est l'oubli de soi. Et aujourd'hui, le rire, il est là juste pour nous rappeler encore plus notre condition et à aucun moment il nous permet de s'oublier.
Qu'est-ce que je vous avais dit ? Bergson cité dans un one-man show. Magnifique.
Et on nous dit des trucs genre, est-ce qu'on peut rire de tout ? Tu te rends compte, Yasmine ? Est-ce qu'on peut rire de tout ? C'est une question. Ça veut dire que le rire, c'est quelque chose d'instinctif qui peut sortir sans contrôle. Ça veut dire qu'on est en train de demander aux gens de contrôler quelque chose qu'ils ne contrôlent pas.
Cette question-là est de façon tragique sur la table, notamment en France,
bien
depuis
sûr.
Les attentats de Charlie Hebdo.
Oui, mais on est en train de déshumaniser.
Alors,
pas...
est-ce que l'humour est un... Je sais que le mot engagement aussi, vous êtes fâché avec. Mais alors, est-ce que l'humour est un challenge pour vous ? Je dribble un peu là, ouais.
Tu m'as pas laissé finir ma phrase.
Allons-y.
Je t'ai dit qu'on est en train de demander aux gens de contrôler quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler. C'est qu'on est en train de les déshumaniser. On en fait des robots, en fait. Et pour moi, poser la question, est-ce qu'on peut rire de tout ? C'est le début de la dictature. Et est-ce que c'est un challenge ? Bien sûr, c'est un challenge aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils rentrent dans une salle, malheureusement, ils sont avec leur masque. Et faire rire les gens aujourd'hui sans leur masque, c'est très difficile. Moi, j'ai envie de faire rire l'humain. Et pas forcément le français ou l'algérien. Mais aujourd'hui, on se considère comme français avant humain ou algérien avant humain. Et pourquoi pas l'extraterrestre. Je lui raconterai une blague, peut-être aussi pour voir s'il rit la même chose de nous que nous.
Bon,
pas.
Je reprends la main avec l'Algérie et son manteau de drame qui traîne derrière elle justement des merveilles comme Reda Seddiki qu'on a ici dans le fauteuil d'en sol majeur, mais aussi comme Ala Morisca que je découvre grâce à vous Reda. C'est un collectif qui signe une comédie musicale qui a l'air incroyable et où on trouve, par exemple, ce rap que Bouteflika appréciera.
قولي وعلاش كيفاش الشعب مهناش يا بوتفليقة نوض من الفراش فتح الطاقة خرج راسك برا تفهم بزاف عفايس في الزنقة لاكراس شوف الشعب منارفي مكاش واش يدير يا دراي دبرس كمل لحيتو بلونغواس ولا هكا يبيع سطلة في الحومة طيح عليه الدولة سكي زوالي روح بخمس سنين مغبر يا درا مرتو ولادو شكون يوكلهم الخدوج بد عليا هاد ليستوار كاين بزاف لي راحوا هكا ولادهم في الزنقة لا قراية لا ثقافة لا موسيقى فين يدري واش دار باباه عنده يماه لازم يوكلها ربي يطلق صراحهم والله يرحم لما تعلب لدو كان على بالهم باللي تقول لي هكا معليش يا ربي رانا شادين فيك كارديو لي سبور كون طالب بوفار سي با فاسيل تعيش في الجزائر لا بنا باش يباين بصح حاجه ما كاين يخدموا تحت الطابله عينك ما ديباسيش مترا اوبسيرفي مصغر دروماتيزي ما دومونديليش علاش نصطلع دعي لي الله يهديني ما قريتو على بالي واش راني ندير بصح نساونا ما قدرنا لها صاحبي حساب لك ارواح وقابلها صاحي توزن بزاف هاك تيي 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 هاك 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 تيي 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 Hak tie 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 Hak 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 tie 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 Hak tie 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 tie
Es kom
Udurka habit hablni
Siblim port
Alesh ma smanish Alesh
hani smatek tatani hna
هدي الموسيقى
Magnifique ce collectif à la Morisca. Ce sont des artistes, si je ne m'abuse, algériens installés au Maroc aujourd'hui et dont le film a été présenté en septembre dernier aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, donc en Algérie, du côté de la Kabylie. Qu'est-ce qui vous séduit d'ailleurs chez eux, Reda Seddiki ?
Déjà leur insolence et leur manière de mettre en scène un peu tout ça. Et comme je disais...
Il faut dire pour ceux qui ne sont pas arabophones, hein, ce qu'on vient d'entendre un peu...
Ouais, il mettait cher au pouvoir, quoi. Il les vannait. Mais bon, comment dire, je le dis, là, c'est des potes et tout, mais eux, ils dénoncent.
Ils démasquent pas.
Non, ils ne démasquent pas. Mais on a besoin quand même d'eux. C'est super ce qu'ils font dans le sens où, s'il n'y avait pas, comme je dis, Bouteflika, il n'y aurait pas ça, quoi. Des fois, le fait d'être oppressé fait qu'il est magnifique, ce clip. C'est s'appelle Awwal Aïta, premier cri. Et en fait, ça raconte, en gros, dans une révolution, le premier cri d'une révolution, ce sont les artistes. Et du coup, c'est pour ça que c'est le collectif d'artistes qui s'est réuni pour faire ça. Et ouais, c'est super. Après, bon, je leur en veux pas parce que c'est facile de... Moi, c'est en France, peut-être, ou peut-être dans des pays beaucoup plus développés où je disais, oui, il faut démasquer parce que voilà, on a le temps. Mais bon, dans la condition de l'Algérie, il vaut mieux dénoncer dans un premier temps.
En tout cas, eux, comme vous, vous symbolisez un peu cette porte qui vient de s'ouvrir en Algérie depuis le fameux 22 février. Et depuis cette date, j'ai cru comprendre que vous faisiez partie des passagers du jeudi soir. C'est pour dire que vous rejoignez Alger chaque semaine pour y vivre les manifestations du vendredi. Et comme le dit l'un des intervenants dans ce doc signé Samir Arjoum et Adjer Weslati, c'est bien ça ?
Ouais.
Ce doc qui s'appelle « Vendredi est une fête », on va entendre un extrait où on vous suit, Reda, au milieu des manifestants, dans un taxi ou encore dans le restaurant Le Bosphore sur votre tabouret d'humoriste.
Mon père, il est tellement incroyable, je vous jure. Il est en forme olympique. Là, récemment, il m'a appelé, il m'a dit « Où le dit ?» سمعت بلي انيلاو الفوت قال لي زعما انيلاو رمضان قال لي والله ماذا بيا انيلاو رمضان في التصنيف القتال وماذا بيا قلت لا ما يا با ما كاينش ماده في الدستور قال لي نديرو ماده في الدستور قلعوا لنا رمضان يا ماما نيمور كي سي ريفيلي لا depuis que ça a commencé les manifestations. C'est vrai, moi je dis souvent que, comment vous dire, l'humour est à l'Algérie ce qu'est un peu le foot au Brésil.
Qu'est-ce qu'on me demande, Anaya? Qu'est-ce qu'on me demande?
C'est de vivre en paix, parce que de mecs, d'avoir nos droits, de mecs, d'être libre, quoi, d'être libre. Pourquoi? Anime, monsieur Apelin, il m'arrête le policier, oui, monsieur le policier, avec un gentil, ça, oui. Il me sourit, je lui souris, salam alaikum. J'ai commis une faute, je te paye, quoi, je paye, je fais rentrer l'argent là, au truc. De mecs, normal.
Est-ce que vous ressentez parfois une culpabilité par rapport à l'état actuel du pays?
J'ai pas bien compris ta question, en fait. Culpabilité par rapport à quoi?
Par rapport à l'état actuel du pays.
Est-ce
que vous sentez parfois une culpabilité, une part de
responsabilité? Je pense qu'il faut poser, il faut reposer la question à l'ancienne génération. Parce que nous, on vient de voir le monde, on vient de comprendre les choses.
On n'est pas des décideurs, on n'est pas des décideurs.
On a vécu et là, on a réagi, tout simplement. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más
Extra en sol majeur sur RFI de Vendredi est une fête. C'est un doc qui donne à l'Algérie son visage de 2019. Avec à l'instant Mina Nachter, c'est une chanteuse et comédienne, chanteuse magnifique apparemment. Est-ce que vous avez comme elle une petite colère, Reda Seddiki, par rapport aux anciennes générations?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous leur reprochez?
Ils se sont... Ça se dit, ils se sont tués?
Ils n'ont pas été démasqués, hein, vous savez.
Qui?
Les anciennes générations.
Oui, mais le truc, c'est qu'à un moment, ils ont arrêté de parler, en fait. En gros, il y avait plein de bruit, comme ça, comme dans un café. Il y a plein de bruit, mais tout le monde s'entend, tout le monde veut en paix. « Mohamed, je vais prendre la presse !» Super. Et à un moment, il n'y a qu'un groupe qui a commencé à parler, et tous autour, ils se sont tués. Et du coup, il n'y a qu'un groupe qui a continué à exister. Et du coup, on rentre dans le café.
Le groupe du pouvoir ?
Tout. C'est un tout. Il y a le fait, le groupe du pouvoir, il y a le fait qu'il y ait cette idéologie... idéologie de la vérité un peu, tu sais, ce truc où c'est écrit comme ça. Oui, c'est la religion, on va pas, ça vient de la religion, mais...
Ou bien la vérité révolutionnaire, parce qu'on a beaucoup utilisé ce mot.
En fait, écoute, j'ai l'impression que tout le monde s'est tué, et il y a deux romans nationaux qui sont restés. Le roman national de FLN et le Coran, voilà.
Kamel Daoud n'aurait pas dit mieux.
Peut-être.
Alors, cela dit, effectivement, vous dites depuis le début de cette conversation, Reda, que vous êtes un cynique. Vous n'êtes pas du tout drôle, hein, ça, je ne sais pas ça d'ailleurs. Hein, parce qu'en général, les humoristes ne sont pas toujours très drôles dans la vie, mais en tout cas, ils ont un fond dépressif. Alors ça, c'est une question, mais en tout cas, on vous voit dans ce doc très ému à un moment donné. L'Algérie vous fait pleurer.
Ouais, c'est l'Algérie, surtout la société que je fantasme, dans laquelle je rêverais de vivre. Quoi.
Et vous employez une belle image pour parler de cette Algérie, avec l'histoire de l'arrêt de bus.
Ouais, je dis, j'ai l'impression d'être dans un arrêt de bus et j'attends et cette Algérie, elle n'arrive jamais. Des fois, je pars, je reviens, je me dis peut-être qu'elle est là et des fois, je me dis peut-être qu'elle est déjà passée en fait et elle ne va plus jamais revenir. Et aujourd'hui, je suis en France, mon humour, je le pratique à 90%. Il y a des mots que je peux pratiquer, des gestes, des regards, des automatismes. En Algérie, je peux pratiquer à peu près mon dialecte entre Tlemcen, Oran, à la rigueur Alger. Si je vais à Constantine, à Sétif, à Adrar, c'est pas le cas. Je viens d'un pays où on n'a même pas une langue, on va dire, uniformisée, unifiée, on va se comprendre. Ça veut dire que Vous savez, c'est peut-être ce qui me... Ces larmes, peut-être exprimer indirectement le fait que je ne pourrai jamais exprimer sur scène l'humour de ma grand-mère qui ne sait ni lire ni écrire. Je sais pas où exprimer sa langue à elle.
Mm-hmm. On vous suit une dernière fois en sol majeur, Eda Sediki, entre Alger et Paris.
Bonsoir mesdames et messieurs, je vous souhaite un tout bon trajet, bonne soirée, messieurs dames.
C'est 10 euros par mois, ça vous permet de financer la scolarité de 4 petites filles. Ah. Ou alors c'est un parrainage de 25 euros par mois.
Oui, votre bancaire, Jean-Pierre.
J comme j'aime, j'aime pas.
Les cloches de Notre-Dame.
J'adore. Quand je suis arrivé à Paris, c'était difficile la solitude au début et tous les samedis, je me posais devant Notre-Dame et je pleurais. J'avais l'impression que c'était un peu comme une épaule sur laquelle je pleurais. Et quand elle sonnait, j'avais l'impression qu'elle me disait « Je t'entends, je t'écoute. »
L'athéisme.
Ouais, j'aime, parce que c'est bien que ça existe, oui. Et c'est drôle de dire c'est bien que ça existe, l'athéisme. Mm-hmm. Ben oui, c'est bien que ça existe.
Vous avez une belle formule, vous dites les Algériens sont politiquement athées.
Oui, parce qu'on n'y croit plus, c'est bon. Le vote, la politique, c'est fini.
Gilles Deleuze.
Oh, pourquoi t'as dit ça? Comment tu sais? Ouais, c'est mon porno à moi. Ah ouais, moi je me touche en cachette sur Gilles Deleuze.
Faut nous initier là alors.
Ah ouais, Putain, Gilles Deleuze, ah pourquoi t'es... Oh non, Yasmine, c'est pas possible, tu fais partie du DRS toi. Ouais, j'aime beaucoup Gilles Deleuze parce qu'il met des mots sur des choses que j'arrive pas à théoriser.
Hanok Levin.
Oh, incroyable, un monsieur qui démasque, enfin, ça fait plaisir.
Alors j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi on n'a pas le temps d'entendre sa langue, notamment dans une pièce que vous m'avez suggérée qui s'appelle Nouvelle Représailles,
ouais.
Avec un dialogue inouï que j'aurais aimé qu'on entende entre un habitant de Gaza et un soldat israélien, mais avec votre art de la rhétorique, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi rire sur ce drame du Moyen-Orient, façon Hanok Levin, ça vous touche?
Ça me touche parce qu'en fait il banalise quelque chose de très grave, à savoir un bombardement. Parce qu'en fait, c'est une pièce où c'est la rencontre d'un habitant de Gaza avec un soldat israélien qui toque comme ça. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Et le soldat, il lui a dit, c'est pour un bombardement. Et l'autre, il lui dit, c'est à quelle heure? Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, il lui dit, et est-ce qu'on a le temps d'évacuer les enfants? Et le soldat qui prend son talkie-walkie, il fait, est-ce qu'ils ont le temps de truc les enfants? Il fait, ouais, aujourd'hui, finalement, vous avez le temps. Il dit, ah bah écoutez, merci beaucoup. Il raconte le bombardement comme si c'était une promo, quoi. C'était quelque chose dans un supermarché. Et là, on est devant la réalité des choses. En fait, on dénude un bombardement. On le présente pas avec des flash infos et des bandes rouges sur BFM TV ou sur je ne sais quoi, ou sur France 24. Non, on le raconte comme si c'était quelque chose de très banal. Et là, on voit le bombardement en face, on voit la réalité en face. Et là, elle nous gifle. Et elle nous remet à notre place. C'est pour ça que j'adore ce mec.
Vous revendiquez le rire sur le drame, donc?
Évidemment. Et on commence.
Bienvenue en France. À ne pas louper sur les routes de sa tournée hexagonale, Reda Sediki dans son tout nouveau spectacle Ironie de l'Histoire. Il sera le 15 mars à Toulouse, le 22 mars à Marc-en-Barœul, c'est dans les Hauts-de-Seine, le 18 avril à Cannes, le 20 avril à La Rochelle, les 10 et 11 mai à Lille. Choukran, merci à vous. On se quitte sans se déchirer et avec l'espoir de se retrouver samedi prochain au bras d'Arsène Sabaniev, direction l'Ukraine. Dans un instant, votre journal suivi de La Marche du Monde.